Vous écoutez, on lit pour vous.
Le délire inquiétant des évangéliques américains. Un texte de Mathieu Bellil, paru le 29 février 2024 dans la presse. Année après année, les Américains se disent toujours moins satisfaits de la direction que prend leur pays. À l'heure actuelle, à peine le quart d'entre eux jugent que les choses vont dans le bon sens. L'une des proportions les plus faibles mesurées au cours des deux dernières décennies. Cette insatisfaction témoigne de la crise de confiance envers les élites politiques et de la désaffection des citoyens à l'égard des deux grands partis traditionnels. En effet, la moitié des électeurs américains se considèrent désormais comme des indépendants, ni républicains, ni démocrates, du jamais vu. Candidat anormal, Donald Trump profite de ce climat de défiance envers les institutions pour alimenter la contestation. Il continue de miser sur son identité d'outsider par opposition à Biden qui fait carrière à Washington depuis plus d'un demi-siècle déjà. Mais pour l'emporter, Trump doit mobiliser les électeurs évangéliques qui représentent environ 25% de la population et sont sensibles aux questions morales et religieuses. L'opération est délicate parce que Trump, on le sait, n'est pas exactement un enfant de cœur. Le milliardaire, deux fois divorcé, amateur de concours de mannequins et propriétaire de casinos, patron impitoyable et narcissique, n'a rien d'un bon chrétien. Malgré la nomination de juges conservateurs opposés au droit à l'avortement et le choix de Mike Pence comme vice-président pour son premier mandat, Trump suscite la méfiance de nombreux leaders évangéliques, dont beaucoup invitent leurs fidèles à s'en détourner. Rappelons qu'en Iowa, un État situé au cœur de la Bible Belt, où avaient lieu en janvier les caucus devant décider du candidat républicain, les pasteurs les plus connus encourageaient leurs fidèles à voter pour Ron DeSantis. Avec le résultat que l'on sait, les électeurs évangéliques ont ignoré cet appel et voté massivement pour Trump. Pour comprendre comment Trump parvient à fédérer ses électeurs, il faut d'abord rappeler que le monde évangélique, comme d'ailleurs le reste du monde protestant, n'a ni chef ni porte-parole officiel, contrairement à l'univers catholique. Les églises évangéliques naissent et meurent au rythme des initiatives individuelles et des modes, comme des jeunes pousses, au prix de l'éclatement. Et il se trouve que les Américains qui se disent évangéliques fréquentent de moins en moins les églises. Beaucoup se font leur petite religion à eux, vénèrent leur « own personal Jesus », comme le dit la chanson de Deep Beach Mode, et se méfient de l'autorité d'où qu'elle vienne, préférant regarder Fox News que d'entendre des sermons. Cette méfiance des évangéliques à l'égard de leurs leaders s'est d'ailleurs accrue dans la foulée de la pandémie, alors que de nombreuses églises ont accepté de fermer temporairement leurs portes pour se conformer aux directives de la santé publique. Beaucoup se sont révoltés contre ces fermetures qui ont nourri l'impression que les églises et leurs fidèles faisaient l'objet d'une persécution politique, que les pasteurs qui avaient consenti à ces fermetures étaient devenus des agents au service de l'ennemi. Donald Trump alimente cette mentalité d'assiégé en insistant sans cesse sur la menace qui, selon lui, plane sur le monde chrétien. Au cours de la dernière année, on l'a vu brandir un mémo du FBI, divulgué par une source anonyme qui s'inquiétait de la montée d'une mouvance catholique d'extrême droite capable de mener des actions terroristes. Un mémo ordinaire et parfaitement raisonnable, comme il s'en écrit des milliers dans une année, mais qui a permis à Trump d'avancer, dans une exagération mensongère typique de son discours, que tous les chrétiens étaient désormais menacés par le gouvernement américain. Il a affirmé récemment, « Sous Joe Biden, les chrétiens et les Américains qui ont la foi sont persécutés à un niveau jamais vu dans notre nation. Les catholiques sont particulièrement visés et les évangéliques font assurément eux aussi l'objet d'une surveillance. » Ce discours catastrophiste et ouvertement complotiste rejoint de nombreux évangéliques qui sont persuadés que la fin des temps est proche et qu'il faut donc redoubler de vigilance et d'ardeur dans la défense de leur foi. Ces gens ne sont pas intéressés par le discours des leaders les plus raisonnables. Ils préfèrent se tourner vers ceux qui considèrent Trump comme l'homme de la dernière chance, comme celui qui peut enrayer le déclin du christianisme et de son influence. L'une des théories les plus étonnantes qui circulent dans le monde évangélique est celle qui compare Trump à un roi perse de l'Ancien Testament, le roi Cyrus. Voici le contexte. 6 siècles avant notre ère, les Juifs sont captifs à Babylone, où ils vivent en exil. C'est alors que Dieu, par la voix du prophète Daniel, annonce que l'heure de la libération a sonné. Un roi étranger, Cyrus le Perse, va conquérir Babylone et permettre aux Juifs de rentrer dans leur terre promise. Leçon de cette histoire. Cyrus, roi impie et barbare, aura été un instrument imparfait au service d'un plan parfait. Et voilà précisément ce qu'est Trump aux yeux de bien des évangéliques américains, un messie imparfait, pécheur certes, mais un messie néanmoins, que certains osent même comparer à Jésus. Oui, vous avez bien lu, parce que, comme Jésus, croit-il, Trump est persécuté et mis en procès par les autorités de son époque, méprisé par les élites pour avoir osé dire la vérité. Voilà pourquoi Trump insiste pour que chacun de ses rassemblements politiques débute par la prière d'un pasteur. Et voilà pourquoi il continue de promettre aux évangéliques de leur donner le pouvoir en échange de leur appui. Pour ses plus fervents partisans, le « Make America Great Again » de Trump sonne comme un « Make America Christian Again », là où la religion, dans sa version fondamentaliste, semble appelée à dominer la vie politique. C'était « Le délire inquiétant des évangéliques américains », un texte de Mathieu Bellil paru le 29 février 2024 dans la presse.
Arrêtons de procrastiner, l'urgence climatique est là. Un texte de Jean-François Albert, paru le 22 avril 2024 dans Le Devoir. L'urgence climatique ne cogne plus à la porte. Elle l'a défoncée depuis des années maintenant. Tous les signaux sont au rouge. Les organisations internationales crédibles telles que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et les Nations Unies indique que nos actions nous mènent irrémédiablement à la catastrophe environnementale. On parle de bouleversements si importants que nos mesures d'adaptation, lesquelles occupent beaucoup trop de place dans nos discussions collectives au détriment des moyens pour lutter contre le problème à la source, ne seront que d'un très maigre secours et contribueront-elles aussi à amplifier le problème? Pour le résoudre, les principales actions auxquelles les gouvernements consacrent des ressources importantes sont d'investir dans des industries d'avenir telles que les batteries, les parcs d'éoliennes et autres projets en apparence verts qui n'en ont que le nom. Ces mesures ont l'important défaut de ne pas véritablement réduire notre empreinte environnementale et nous maintiennent dans ce modèle de croissance économique et d'hyperconsommation. Une vision mortifère qui nous entraîne sans aucun doute, maintenant, vers la plus grande crise qu'aura traversée l'humanité dans toute sa longue histoire. Symptomatique de ce paradigme duquel nous n'arrivons pas à nous soustraire, l'émissaire pour le climat et ancien secrétaire d'État John Kerry martelait encore récemment son discours selon lequel il est primordial de trouver de nouvelles sources de financement pour investir dans la lutte contre les changements climatiques. Si investir dans un cocktail de mesures peut sans doute nous aider à réduire les effets de la crise, cela évacue encore et toujours le moyen le plus efficace pour nous en sortir, réduire notre consommation. Nous devons et pouvons, dès maintenant, réduire cette consommation, cela aura une incidence immédiate sur l'émission des gaz à effet de serre responsables, comme chacun devrait le savoir maintenant, de l'augmentation des températures globales sur la planète. Le plus incroyable, bien que ce soit un défi immense, c'est que cela n'exige pas d'investissement massif, cela exige seulement du courage politique et un encadrement législatif plus adapté à cette situation exceptionnelle. Et si nous décidons d'être collectivement solidaires, nous pourrions même aborder ces changements en améliorant notre qualité de vie. En effet, il est vrai que réduire notre consommation nous obligera à interdire certains achats et certaines pratiques, et cela entraînera inexorablement des pertes d'emplois. Le défi consistera à ne pas laisser tomber ceux qui seront ainsi touchés. Voyons-y une occasion de réduire la semaine de travail pour créer de nouveaux emplois dans des secteurs plus respectueux de l'environnement. Offrons-nous le bonheur de ne pas avoir à investir des milliards dans l'agrandissement d'un aéroport et contingentons le transport aérien. Adoptons un moratoire pour tout nouveau projet d'agrandissement du réseau routier. Mettons un terme à notre pensée ambiguë et soyons conséquents. N'acceptons pas les projets qui amplifient considérablement le problème. Adoptons des lois pour réduire la taille des maisons et des voitures, investissons dans l'isolation de notre parc immobilier vieillissant et évitons la construction de nouveaux barrages. Osons discuter collectivement de démographie et mettons un frein à la croissance sans pour autant freiner le développement de notre société. Plutôt que de se réjouir de l'accroissement de leur population et de se faire les apôtres de l'augmentation d'une densité d'habitation dont personne ne veut, les élus des villes du Québec devraient travailler à améliorer le cadre de vie de leurs concitoyens, un objectif plus facilement atteignable s'ils ne sont pas continuellement obligés d'investir des sommes colossales pour faire face à l'augmentation des besoins dus à la croissance. Et affranchissons-nous de ce mythe tenace qui fait dire à trop d'élus que la croissance est nécessaire pour permettre d'offrir des services à la population. Si ce principe est applicable aux petites municipalités, il est totalement erroné pour les villes plus populeuses. Les mentalités doivent changer au sein de la population et cela devrait se répercuter dans les décisions prises par nos élus même, s'il me semble légitime de souhaiter qu'ils fassent dès maintenant preuve de plus de courage pour combattre cette énorme crise et agissent ainsi en vrai leader. Le gouvernement pourrait commencer par des actions aussi simples que de nommer un ministre de l'Environnement compétent et ne pas faire du développement industriel du Québec notre principal projet de société. Arrêtons collectivement de procrastiner et osons faire des gestes conséquents à la hauteur des défis auxquels nous faisons et ferons face. C'était « Arrêtons de procrastiner, l'urgence climatique est là », un texte de Jean-François Albert, paru le 22 avril 2024 dans Le Devoir.
L'intelligence artificielle dans le rôle de Cupidon, un texte de Naomi Duquette-Zamor, paru le 7 avril 2024 dans La Presse. L'intelligence artificielle, IA, envahit de nombreuses sphères de nos vies, mais peut-elle aider à connaître un plus grand succès relationnel, notamment sur les applications de rencontres, et même jouer le rôle de Cupidon? Nathan, prénom fictif, a 20 ans et utilise l'application Tinder de façon régulière. Un soir, il se tourne vers ChatGPT pour générer un message destiné à une femme avec qui il veut passer un moment intime. Sa motivation? Gagner du temps et aller droit au but avec ses intentions. Résultat, l'application d'intelligence artificielle comprend sa demande et lui génère un texte qu'il envoie à la jeune femme. Cette dernière accepte l'invitation. Le fait que quelque chose d'autre que moi écrive le message donne une certaine assurance, croit le jeune homme. Questionné sur sa capacité à aider les gens à flirter, l'application d'intelligence artificielle ChatGPT répond qu'elle peut certainement jouer un rôle dans l'amélioration de l'expérience des utilisateurs sur les applications de rencontres et les aider à rencontrer du succès. Il suffit de taper quelques mots dans le générateur afin de recevoir plusieurs propositions de phrases ou d'approches amusantes à envoyer à la personne que l'on essaie de charmer. Tout comme un ami, ChatGPT peut également conseiller quelqu'un qui a de la difficulté à converser sur les applications comme Tinder, Bumble ou Hinge. Autrefois, les gens utilisaient leur réseau d'amis ou même des applications comme Reddit pour demander conseil sur la façon de discuter sur les applications de rencontre, explique Dave Anctil, chercheur associé en éthique de l'IA au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, CRE. Les gens utilisaient déjà l'intelligence des autres pour se mettre en valeur. L'IA enlève donc la gêne de demander de l'aide à un proche. Selon Noé Klein, chercheur en sociologie spécialisé dans les relations intimes et les applications de rencontres, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte de drague peut procurer un sentiment d'approbation pour ceux qui l'utilisent. C'est une manière d'avoir un recours objectif sur ce qu'on souhaite envoyer à quelqu'un, explique-t-il. Pour pallier des lacunes sociales, les recherches démontrent que les hommes hétérosexuels sont les plus grands utilisateurs de ce type d'intelligence artificielle pour clavarder sur les réseaux de rencontres. Selon Noé Klein, il existe dans notre société occidentale un concept genré qui veut que les hommes soient plus entreprenants que les femmes lors des échanges de séduction. Cela peut expliquer que les hommes aient plus recours aux services de l'IA pour diversifier leurs approches ainsi que pour pallier certaines lacunes ou incertitudes sur le plan de l'intelligence émotionnelle, souligne-t-il. Selon M. Anctil, ce constat est également le résultat d'une lacune sociale. On l'oublie souvent, mais ces aptitudes relationnelles ne s'apprennent pas à l'école, rappelle-t-il. Cette baisse de capacité communicationnelle fait en sorte que les jeunes hommes hétérosexuels se sentent plus démunis pour approcher les femmes, mais aussi pour comprendre les signaux qu'ils reçoivent. L'IA a-t-elle une intelligence émotionnelle? Quand on le lui demande, ChatGPT précise qu'elle ne ressent aucune émotion. « Je n'ai pas de conscience, ni de sentiment, ni de capacité émotionnelle. » Dave Anctil soutient toutefois que l'IA arrive à comprendre l'intelligence émotionnelle des humains. Elle ne ressent rien, mais elle est capable de créer un modèle d'intelligence émotionnelle en se basant sur les données venant de l'Internet qui portent sur les relations, l'amour et la sexualité, souligne le chercheur. Grâce à cet accès illimité aux données, l'IA est capable de générer des phrases et des réponses susceptibles de fonctionner à une échelle que l'humain ne serait jamais capable de faire. L'utilisation de l'IA ne garantit pas qu'elle vous aidera à trouver le grand amour. Il faut voir l'IA comme un outil, puisque, sur les sites de rencontres, il faut se démarquer et réussir à entrer en contact avec les gens. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que les rencontres humaines restent le point de réussite ou d'échec au bout du compte, souligne Noé Klein. Rien ne vaut une première rencontre. Est-ce considéré comme malhonnête d'utiliser l'IA pour discuter sur les applications de rencontres? Noé Klein souligne que le sentiment de se sentir trahi par quelqu'un qui utilise ChatGPT pour discuter est valide. Mais dans les conversations en ligne, il est aussi possible de flouer les gens sans même l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le niveau de duplicité sur les réseaux de rencontres augmente avec le niveau de l'IA, puisqu'on peut faire croire qu'on a des capacités de langage et d'expression qui sont complètement fausses, ajoute Dave Anctil, qui souligne que cette pratique s'ajoute à celle déjà bien connue de modifier des photos afin d'améliorer son apparence physique. Une chose est certaine, l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer la première impression lors d'une première rencontre. Il n'y a aucune assurance que la personne vous tombera dans les bras. Une étude a prouvé que, peu importe les tactiques et les outils utilisés sur les applications, rien ne peut prédire l'issue de la rencontre, souligne M. Klein. Même si Nathan a fait appel au service de l'intelligence artificielle, il a rapidement décidé de ne plus l'utiliser. Je me suis rendu compte à quel point ça encourage le succès rapide et j'ai trouvé que ça manquait d'authenticité, raconte le jeune homme. Mais Noé Klein se veut rassurant. Il reste que, dans nos conceptions de l'intimité, l'humain valorise l'authenticité et cherche constamment à prouver qu'il a quelque chose de spécial à offrir, d'unique, rappelle le chercheur. L'IA aide ceux qui ont déjà des pratiques malhonnêtes sur les sites de rencontres. Mais ce serait surprenant de voir qu'elle augmente le taux de gens qui veulent mentir sur les applications de rencontres. L'IA comme filtre amoureux. Au-delà de l'utilisation personnelle que font les gens de l'intelligence artificielle, celle-ci influence déjà l'expérience des utilisateurs d'applications de rencontres, notamment avec les algorithmes. Certaines applications utilisent l'IA pour le matchmaking et ainsi calculer l'attractivité des gens en analysant plusieurs critères comme leur âge, leur ethnie, leurs attraits physiques, explique Dave Anctil, chercheur associé en éthique de l'IA au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Le tout dans le but d'offrir des recommandations de candidats plus personnalisées aux utilisateurs. L'intelligence artificielle arrive également à déterminer les candidats les plus compatibles grâce à l'étude qu'elle fait de leur profil ainsi que de leurs données d'utilisation. Tout comme les algorithmes, les applications de rencontres ne sont pas neutres, rappelle Noé Klein, chercheur en sociologie spécialisé dans les relations intimes et les applications de rencontres. Une uniformité existe déjà sur ces sites où on est tous soumis au même modèle de profil. C'était l'intelligence artificielle dans le rôle de Cupidon, un texte de Naomi Duquette-Zamor, paru le 7 avril 2024 dans La Presse.
Plus de 70% des journalistes en environnement victimes de menaces, pressions ou attaques. Un texte de l'agence France-Presse, paru le 2 mai 2024 dans Le Devoir. Plus de 70% des journalistes de 129 pays qui traitent des questions environnementales ont indiqué avoir été victimes de menaces, de pressions ou d'attaques, alerte l'UNESCO dans une enquête révélée le 2 mai 2024 à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Dans son nouveau rapport « Presse et planète en danger », l'UNESCO indique avoir mené en mars une enquête auprès de 905 journalistes et que plus de 70% d'entre eux déclarent avoir été la cible d'attaques, de menaces ou de pressions en lien avec leurs enquêtes sur des questions environnementales. Parmi eux, 2 sur 5 disent avoir subi des violences physiques. quelque 85% des journalistes concernés disent avoir fait l'objet de menaces ou de pressions psychologiques. 60% ont été victimes de harcèlement en ligne, 41% d'agressions physiques et 24% ont déclaré avoir été attaqués sur le plan juridique. Près de la moitié, 45%, dit s'auto-censurer par crainte de représailles, de voir leurs sources dévoilées ou parce qu'ils sont conscients que leurs articles sont en conflit avec les intérêts de parties prenantes concernées. Les données montrent également que les femmes journalistes sont plus exposées que les hommes au harcèlement en ligne. 44 assassinats en 15 ans. Dans le cadre de la publication de cette enquête, l'UNESCO a également révélé qu'au moins 749 journalistes et organes de presse traitant de questions environnementales ont été la cible de meurtres, de violences physiques, de détentions et d'arrestations, de harcèlement en ligne ou d'attaques juridiques au cours de la période 2009-2023. Une augmentation de 42% des cas a été relevée entre 2019 et 2023. Par rapport à la période précédente, 2014-2018. L'UNESCO rappelle qu'au moins 44 journalistes traitant des questions environnementales ont été tués depuis 2009 dans 15 pays, dont 30 en Asie-Pacifique et 11 en Amérique latine ou dans les Caraïbes. Quelque 24 ont survécu à des tentatives de meurtre et seulement 5 assassinats ont donné lieu à des condamnations, soit un taux d'impunité choquant de près de 90%, souligne l'UNESCO. Les journalistes environnementaux sont confrontés à des risques croissants car leur travail recoupe souvent des activités économiques très rentables, telles que l'exploitation forestière illégale, le braconnage ou le déversement illégal de déchets, fait remarquer l'UNESCO. L'Agence des Nations Unies appelle à un renforcement du soutien aux journalistes spécialisés dans les questions environnementales car, sans informations scientifiques fiables sur la crise environnementale en cours, nous ne pourrons jamais espérer la surmonter, a indiqué la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, citée dans le rapport. Elle souligne que la désinformation liée au climat est omniprésente sur les réseaux sociaux. Cette enquête, révélée à l'occasion de la conférence mondiale de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui se tient à Santiago du Chili, souligne que le problème est mondial, les attaques ayant lieu dans 89 pays de toutes les régions du monde. C'était plus de 70% des journalistes en environnement victimes de menaces, pressions ou attaques. Un texte de l'Agence France-Presse paru le 2 mai 2024 dans Le Devoir.